Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Russie fait à nouveau parler la force à Alep. Les raids russes ont repris aujourd'hui sur la deuxième ville syrienne. Malgré les condamnations internationales, nous ferons le point avec leur Stéphane à Beyrouth. La nouvelle offensive russe qui provoque une vraie crise diplomatique avec la France. Vladimir Poutine ne viendra pas à Paris la semaine prochaine. Nous verrons cela avec Marc Crépin à Moscou. En France, Manuel Valls promet aux policiers des voitures anti-caillassage après l'agression de Viry Châtillon. Une mesure insuffisante pour calmer la colère des forces de l'ordre, le reportage à Lyon de Claude Cordier. L'Union européenne s'apprête à signer avec le Canada un accord de libre-échange, le CETA. Nous en parlerons avec notre invité Édouard Boursieux, représentant de la Commission de Bruxelles en France pour les affaires commerciales. La Russie a donc repris ce matin ses bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep, des raids massifs qui auraient fait au moins 16 morts dans la population civile, selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La rébellion a répliqué par des tirs de mortier sur les quartiers gouvernementaux. Ces nouvelles attaques russes interviennent après 3 jours de relative accalmie dans la deuxième ville du pays. Mais à l'évidence, Moscou veut accentuer la pression militaire sur les rebelles d'Alep. On fait le point à Beyrouth avec Laure Stéphane.
Des images d'enfants blessés, de corps déchiquetés ou de secouristes cherchant à extirper des victimes ou des blessés des décombres. Les photographies provenant de l'est d'Alep témoignent de la violence des bombardements qui se sont abattus contre la zone rebelle. C'est dans le quartier de Bustan al-Kasser que le plus grand nombre de victimes a été enregistré. Il se situe non loin de la ligne de front. D'autres faubourgs ont aussi été visés. Selon le témoignage d'un activiste de l'opposition sur place, 2 enfants ont été tués alors qu'ils se rendaient à l'école. Des écoles qui s'éteignent souvent par sécurité dans des immeubles anonymes afin d'éviter d'être ciblées. L'intensification des frappes se produit quelques jours après l'annonce par l'armée syrienne qu'elle allait ralentir ses bombardements. Cette annonce, qui avait été accueillie avec un total scepticisme en zone rebelle, s'était accompagnée d'un ultimatum lancé aux civils pour qu'ils quittent Alep et d'un appel aux rebelles à se rendre. Depuis, les avions de reconnaissance n'ont jamais quitté le ciel, selon des militants des quartiers rebelles. Des bombardements ont aussi touché au cours des jours passés des localités autour d'Alep, tandis que dans la partie orientale de la ville, de violents combats ont opposé combattants rebelles et forces pro-régime. Depuis le début de l'offensive massive contre l'est d'Alep, il y a 20 jours, les frappes aériennes du régime syrien et de son allié russe ont fait des centaines de morts.
Laure Stéphane, correspondante au Liban, dans le sud de la Syrie, à Dera. Des roquettes tirées par les rebelles ont tué au moins 5 enfants dans une école. Un bilan provisoire selon l'OSDH qui évoque 25 blessés dans un état critique. Cette reprise des bombardements à Alep survient 3 jours après le rejet de la résolution française à l'ONU. Un texte qui appelait à l'arrêt des combats. Mais le veto russe a d'ailleurs provoqué une véritable crise diplomatique entre les deux pays. C'est officiel depuis aujourd'hui. Vladimir Poutine ne viendra pas à Paris le 19 octobre prochain. Le président russe devait inaugurer le centre culturel et la cathédrale orthodoxe bâtie au pied de la tour Eiffel. François Hollande était prêt à l'accueillir à l'Élysée pour discuter de la crise syrienne, mais uniquement de cette crise syrienne. Condition inacceptable pour Vladimir Poutine, qui a finalement annulé son déplacement parisien. Marc Crépin nous appelle de Moscou.
La nouvelle de l'annulation de ce voyage n'aura pas eu un écho très important en Russie. Le Kremlin n'y tient pas. Et lorsqu'il en est question, l'entourage de Vladimir Poutine insiste beaucoup sur la responsabilité de la France. C'est un communiqué ironique que son porte-parole a publié. D'abord, à destination de son opinion publique, le président voulait venir à Paris pour inaugurer le centre culturel et spirituel orthodoxe russe, pas pour parler de la Syrie, dit-il, ajoutant « La visite aura lieu lorsqu'elle conviendra mieux au président français ». Autrement dit, il faut chercher les responsabilités de cette brouille à Paris et pas à Moscou. Il est vrai que pour Vladimir Poutine, c'était une question de prestige et de rayonnement de son pays. Mais cela signifie aussi qu'il n'est pas question de remettre en cause l'appui de la Russie à Bachar el-Assad ni les opérations militaires à Alep. Certains médias parlent même du comportement incorrect de François Hollande, tandis qu'un célèbre militant des droits de l'homme explique « c'est une bonne claque dans la figure de Poutine ».
Marc Crépin, l'annulation de cette visite suscite de vives critiques dans la classe politique française. À droite, Nicolas Sarkozy dénonce l'attitude irresponsable de François Hollande qui refuse de dialoguer avec Vladimir Poutine. À gauche aussi, Jean-Luc Mélenchon utilise ce terme d'irresponsable pour qualifier la position du chef de l'État. François Hollande est la risée de l'univers, c'est le petit répétiteur des États-Unis. Voilà ce que déclare Jean-Luc Mélenchon ce soir sur Public Sénat et Radio Classique. Un peu partout en France, des centaines de policiers ont manifesté leur colère aujourd'hui après l'agression de 4 d'entre eux ce week-end à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Ils ont réclamé des renforts mais aussi une justice plus ferme pour ceux qui attaquent les forces de l'ordre. Manuel Valls a tenté de répondre à ces inquiétudes en annonçant de nouvelles mesures de protection. Ainsi, les policiers en intervention dans les quartiers difficiles seront dotés de véhicules spécialement équipés. Alors, quelles sont les premières réactions à ces mesures ? Plutôt positives, même si elles sont encore jugées insuffisantes. Le reportage à Lyon de Claude Cordier.
Des véhicules équipés de dispositifs anti-caillassage, voire blindage, pour des interventions dans les zones sensibles, l'annonce du Premier ministre faite cet après-midi n'est pas pour déplaire aux policiers. Frédéric Bisançon.
C'est vrai que si c'est que pour les dispositifs qu'on connaît notamment sur les maintiens de l'ordre, effectivement c'est des dispositifs qui protègent, mais qui protègent du caillassage et pas éventuellement si la voiture elle prend feu, ça la protégera pas.
Reste tout de même constaté sur le terrain, après les événements de Viry-Châtillon, l'épuisement, la lassitude et la colère, avec un constat repris par Audrey Collin, ancien officier de la BAC.
Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui des délinquants puissent marcher dans la rue alors même qu'ils sont multirécidivistes et dangereux.
Plus que des annonces, ce sont des mesures qu'attendent les policiers à la fois en termes de moyens et de décisions politiques. Patrice Ribeiro de Synergie Police.
D'une part, on augmente les effectifs policiers, on ne leur fait pas faire non plus n'importe quoi parce que surveiller une caméra avec des policiers c'est complètement ridicule et ça n'a pas de sens. Et en même temps que ce renforcement de moyens, eh bien, il faudra également avoir une vraie politique pénale avec des constructions de places de prison pour qu'on sache que si on commet un acte grave et notamment s'en prendre à un policier, eh bien, on prend de la prison pour 30 ans lorsqu'on essaye de tuer des policiers.
Et les policiers de Synergie auront l'occasion de le redire en recevant le ministre devant leur congrès jeudi.
Du côté de l'enquête sur l'attaque de Viry-Châtillon, aucun suspect n'a été interpellé jusqu'à présent. L'un des 4 policiers blessés, un adjoint de sécurité de 28 ans, est toujours sous coma artificiel. Son pronostic vital reste engagé ce soir. C'est un avis plutôt positif que la Cour des comptes a rendu aujourd'hui sur les finances des collectivités locales. La Cour constate une amélioration globale de ses finances et pourtant les régions, les départements et les communes dénoncent régulièrement la baisse des dotations de l'État. Jean-Marc Chardon, la Cour des comptes rétablit la vérité des chiffres tout en adressant une mise en garde.
On aurait tort de rester sur l'impression d'un satisfecit définitif de la Cour des comptes sur les finances des collectivités locales. Le message central envoyé par son président, il est de dire « Les efforts d'économie, il va falloir les poursuivre l'an prochain, mais dans des conditions moins favorables, avec le risque de rentrées fiscales moins abondantes. » En revanche, sur les 2 millions d'agents territoriaux, il y aurait d'importantes marges de manœuvre pour réaliser des économies. Les magistrats partent d'un constat. En 7 ans, les dépenses de personnel des administrations publiques locales sont passées de 64 à près de 80 milliards. Une progression de 23%, une augmentation forte, nettement plus que dans les services de la sécurité sociale et dans ceux de l'État. Il y aurait donc un train de dépenses relativement plus élevé dans la gestion des personnels de collectivités locales. C'est ce rythme de dépenses que la Cour appelle à réduire en revoyant la politique salariale, la gestion des carrières, l'organisation et le temps de travail jusqu'aux prises de congé, ce que les magistrats appellent une gestion plus performante en concertation avec l'État. Ne manque plus qu'un calendrier pour engager ce qui ressemble à l'esquisse d'une réforme.
Jean-Marc Chardon, Manuel Valls se rend à Ottawa demain, une visite officielle en terre canadienne largement consacrée au CETA, ce fameux accord de libre-échange que doivent signer à la fin du mois l'Union européenne et le Canada. Le CETA doit libéraliser les échanges commerciaux entre les deux parties, mais le texte est dénoncé par certains qui y voient une nouvelle victoire de la mondialisation libérale. Attaque et la Confédération paysanne ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Agriculture à Paris. Invité de ce journal, Édouard Boursieux, représentant de la Commission européenne en France pour les questions commerciales. Bonsoir.
Bonsoir.
Édouard Boursieux, le traité CETA va-t-il permettre aux entreprises européennes d'accéder plus facilement au marché public canadien ?
Oui, c'est toute l'idée de ces négociations et de cet accord. Et sur ce point, sur les marchés publics, on a obtenu un résultat qui est très bon pour les entreprises européennes et un rétablissement de l'équilibre, un rééquilibrage entre la situation en Europe et la situation au Canada. On est très ouvert en Europe jusqu'ici. Le Canada était beaucoup plus fermé aux exportations européennes dans les marchés publics, alors qu'on a de nombreux leaders mondiaux et beaucoup de PME qui travaillent dans ces secteurs. Et avec cet accord, on a enfin obtenu que le Canada ouvre son marché d'une manière qui est équivalente à celle qu'on connaît en Europe.
Oui, parce qu'en fait, il y avait l'exemple d'Alstom qui, en 2010, n'avait pas pu postuler pour un marché public au Canada.
Oui, exactement. C'était quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On a un peu oublié aujourd'hui, mais Nicolas Sarkozy avait tapé du poing sur la table au Conseil européen sur ce sujet, quand Bombardier avait remporté des contrats dans le transport ferroviaire en Île-de-France, alors qu'Alstom ne pouvait pas soumettre d'offres au Canada. Il y avait un problème à l'époque. C'était un problème qui était grave pour l'Union européenne. Le problème, aujourd'hui, il est réglé. On n'aurait plus ce genre de configuration aujourd'hui avec cet accord.
Mais en contrepartie, bien évidemment, les Canadiens auront un accès plus facile aux marchés européens.
Les Canadiens auront également un accès facilité aux marchés européens. Mais ce qui intéressait beaucoup les Canadiens dans cette négociation, il faut le savoir, c'était de sortir de la dépendance américaine. Trois quarts de leurs exportations, trois quarts de leurs échanges sont tournés vers les États-Unis, leurs grands voisins. Et ils étaient très intéressés à approfondir leurs relations avec une autre grande puissance, l'Union européenne, une autre grande puissance commerciale, pour avoir un meilleur équilibre dans leurs échanges internationaux. Et donc ça, c'était quelque chose qui était très fort dans la motivation canadienne.
Édouard Boursieux, sur la question des indications géographiques pour les produits alimentaires, qu'avez-vous obtenu du Canada ?
Ça, c'est un autre domaine où on a obtenu d'excellents résultats dans ces négociations avec le Canada. Et c'est quelque chose de très important du point de vue européen, mais particulièrement du point de vue français. Il faut se souvenir que les indications géographiques, le concept d'indication géographique, de lien entre un produit et un territoire, le fait que le champagne vienne de la région champenoise, c'est quelque chose de français à l'origine, que les Français sont parvenus à exporter au niveau européen. Et maintenant que c'est au niveau européen, évidemment, il y a tout le poids de l'Europe qui joue pour projeter ça dans le reste du monde, dans beaucoup de pays, mais notamment au Canada, qui pendant longtemps était un pays qui était très opposé au concept d'indication géographique. Et pour la première fois, le Canada a accepté de reconnaître une liste d'indications géographiques, la plupart des indications géographiques les plus importantes pour l'Europe, toutes celles qui sont vraiment concernées par le marché canadien aujourd'hui, de reconnaître ces appellations et de les protéger au Canada. Jusqu'ici, il n'y avait aucune protection pour les appellations d'origine contrôlée, pour les indications géographiques dans le domaine alimentaire au Canada. Pour la première fois, grâce à cet accord, on va avoir 143 produits au niveau européen qui seront effectivement protégés au Canada, reconnus au Canada, sans évidemment qu'il y ait le moindre changement de ce point de vue-là sur le niveau de protection au niveau européen.
Alors, Édouard Boursieux, les standards sanitaires canadiens ne sont pas ceux de l'Europe. Alors, y a-t-il un risque que le bœuf aux hormones produit au Canada arrive dans nos assiettes ?
Non, ça c'était un gros sujet d'inquiétude dans le débat public, et à juste titre, parce qu'on n'a pas envie de changer notre approche sur ce type de sujet à l'issue de ce type de négociation. Et très clairement, le résultat qu'on a avec le Canada, c'est que sur tout ce qui concerne les normes de protection des consommateurs, les normes alimentaires, il n'y a strictement aucun changement. Le bœuf aux hormones est interdit aujourd'hui en Europe, il restera interdit demain en Europe. C'est la même chose pour le poulet chloré dont on parle souvent dans le partenariat transatlantique, ou pour le porc à la ractopamine. Tout ce qui est interdit aujourd'hui en Europe restera interdit demain en Europe.
Et pourtant, la Confédération paysanne et ATAC redoutent avec cet accord CETA l'arrivée de la malbouffe en Europe.
Ça, il suffit de lire l'accord, de lire en détail. Le texte est sur le site internet de la Commission pour s'assurer qu'en effet, toutes ces normes alimentaires sont strictement, scrupuleusement respectées dans cet accord. On a un accord qui a réglé un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'obstacles entre l'Europe et le Canada. Mais la limite à tout ce qu'on peut faire en matière commerciale, c'est notre appréhension du risque, c'est nos politiques publiques légitimes. Rien dans ce type d'accord ne doit remettre en cause nos politiques publiques légitimes. C'est les limites à ce qui peut être fait. On peut simplifier un certain nombre de choses, mais tout ça dans le respect de notre cadre législatif et réglementaire existant.
Édouard Boursieux de la Commission européenne, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Cette bonne nouvelle pour l'emploi, Renault annonce le recrutement de 1000 salariés supplémentaires en CDI d'ici la fin de l'année. Le groupe, qui affiche de bons résultats, s'est remis à embaucher l'an dernier. Au total, 3000 recrues supplémentaires en 2 ans. Le temps demain, nuageux dans le sud, gris et frais dans le nord. De l'Aquitaine aux régions méditerranéennes, le ciel se couvrira avec quelques pluies possibles sur les Pyrénées. Cette dégradation annonce un épisode méditerranéen très pluvieux pour jeudi. Température maximale 11 à 15 degrés dans le nord-est, 15 à 21 sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.